Voilà, que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être qui va fâcher certains. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Nous allons parler de l'homéopathie, médecine douce, parallèle, alternative, puisque c'est la mode aujourd'hui et... La Bible nous demande d'exhorter, de prévenir, de censurer et parfois de menacer. Parce que il y a des moments où on a besoin d'être fortifié, il y a des moments où on a besoin d'être menacé, d'être averti. Et c'est ainsi que fait l'homme. Il a besoin de tout cela pour rester dans le chemin de Dieu ou le trouver. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 1er, 27-31. Genèse chapitre 1er, versets 27 à 31. Vous savez, quand un enfant est formé déjà presque à 10 jours, tout en lui, même s'il est très petit, il ne dépasse pas quelques centimètres, mais tout ce qui sera son futur est déjà dedans. C'est déjà dedans. Et donc, la logique de Dieu, c'est que dès le commencement, il met déjà presque tout à l'avance. Donc, dans le livre de Genèse, se trouve déjà la fin aussi en même temps, se trouve le milieu. Donc, c'est comme ça que Dieu exerce son travail. Donc, dès le commencement, il met déjà les enjeux. On voit dans Genèse 3:15, le Seigneur dit qu'il y aura l'inimitié entre la descendance de la femme et le serpent. La descendance de la femme, qui est Jésus, écrasera le serpent, la tête du serpent, et le serpent lui blessera le talon. Tout ça, c'est les souffrances de Jésus-Christ, la blessure au talon. Donc, dans Genèse est déjà livré l'avenir, les combats qui va y avoir entre les forces du bien, c'est-à-dire Dieu, et les forces du mal. Et nous devons rappeler ça à chaque chrétien, que nous sommes dans un monde où il y a deux camps. Il y a le camp du diable et le camp de Dieu. Et nous les humains, nous sommes là, on nous demande de faire un choix entre le camp du diable et le camp de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. C'est où tu es dans le camp de Dieu, ou tu es dans le camp du diable. Il n'y a pas de milieu. Certains vont dire, non, moi je suis neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Si, quand tu es neutre, ça veut dire que tu es dans le camp du diable. Parce que Dieu dit, il faut être chaud. Donc, les tièdes, il va les vomir. Donc, si les vomis, ils vont partir où? Dans l'autre camp. C'est clair. Donc, il n'y a pas d'arbitre dans ce monde. Pour dire que je suis un arbitre, je suis neutre. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Ou tu reviens à lui, ou bien tu te rebelles, tu vas dans l'autre camp. Et donc, comme nous sommes en combat, le but du diable, c'est quoi? Le but du diable, c'est de nous éloigner le plus de Dieu, de nous isoler et de bien nous tuer, spirituellement d'abord, ensuite physiquement. Et il est certain que, étant mort spirituellement et physiquement, on se retrouvera avec lui dans le feu éternel, en enfer. C'est ça son but. Il ne veut pas aller tout seul. Il veut aller avec le maximum de personnes. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ainsi qu'il fera mal au cœur de Dieu. Il sait que s'il touche les gens que Dieu aime, s'il les amène en enfer, eh bien, ça fera du mal à Dieu. C'est ça le but du diable. Et il use de toutes sortes de stratégies pour baisser notre garde, faire baisser notre vigilance, parce que lui ne vient pas en face. On l'appelle le malin, le rusé. Il use des stratagèmes, des artifices pour nous amener à baisser notre garde et ainsi il peut nous manipuler et nous écarter petit à petit du chemin de Dieu et nous allons nous retrouver tout d'un coup, on est déjà perdu. C'est ça son but. C'est pourquoi il lance beaucoup de mauvaises choses à la fois. De sorte qu'on est on soit tellement entouré de mauvaises choses qu'on se dise « j'ai pas le choix ». Puisqu'il y a tellement de mauvaises choses autour. C'est comme dans certains pays, où il y a la dictature, lorsqu'on autorise la démocratie, eh bien, le dictateur va créer beaucoup de faux partis politiques pour essayer de noyer les deux ou trois partis qui sont vrais. Il va les noyer en créant 100, 200 partis politiques faux. Comme ça, les gens vont dire tout le monde est faux, puisqu'il y a déjà 100 partis politiques faux, donc il n'y a pas de vrai. Donc, il te fait entourer de tellement de mauvaises choses que tu as l'impression qu'il n'y a que du mauvais et que finalement, ce mauvais-là, pour que tu te sentes à l'aise, tu le transformes en bien. Alors, c'est ainsi que le diable crée plusieurs sortes de systèmes pour nous étouffer. Il crée la soif de l'argent à travers l'esprit de consommation. Il crée tout ce qui est débauche, dépravation, des mœurs sexuelles à travers tout ce qui est film, pancarte publicitaire, à travers la légèreté des mœurs qui ne fait que grandir. Il crée tout ce qui est lié à la violence, des sports de combat ne cessent d'augmenter en nombre. Vous imaginez que les gens payent un ticket pour aller voir des hommes se battre. Voilà, ça, ce sont les ruses du diable. Ben, tu te diras, non, moi, je suis... le diable ne m'atteint pas. Mais oui, mais quand tu payes ton ticket pour aller voir des hommes se battre, il t'a atteint quand même d'une certaine manière. Donc, il faut réfléchir. Quelqu'un qui est en train de recevoir des coups, toi, tu viens là pour regarder comment il reçoit les coups. Donc, quelque part, on t'a eu quand même à un certain niveau. Donc, et c'est ainsi que il multiplie toutes sortes de choses pour nous avoir petit à petit. S'il ne peut pas t'avoir en face, en t'amenant à voler, à tuer, il va t'avoir petit à petit. Petit à petit, et un jour, tu te retrouves déjà très loin de la vérité. Et l'homéopathie, les médecines douces, parallèles, alternatives, acupuncture, sophrologie, médecine holistique, ostéopathie, beaucoup de choses il a créées pour essayer d'amener les gens inconsciemment à lui. Et nous allons le voir. Et la Bible nous dit quoi? Peut-être on se pose la question, où est le lien avec Genèse 1, 26, 27? La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Qu'est-ce que nous voyons là? Dieu crée l'homme. Il dit à l'homme quoi? Je te donne la domination sur la terre. Donc, ce n'est pas seulement sur les animaux et les plantes, mais sur toute la terre. Donc, ça veut dire que l'homme avait une sorte d'autorité sur l'atmosphère, sur la terre, sur les propriétés en quelque sorte physiques et chimiques et biologiques, puisque c'est ça la terre, tout est dans la terre. Donc Dieu lui dit, voici je te donne autorité sur ces choses-là. Et si nous regardons bien les choses que le Seigneur a données à l'homme pour régner dessus, eh bien, ce sont des choses que les cinq sens peuvent appréhender. Le goût, le toucher, il devait manger l'herbe, on lui donne quoi manger, les fruits des arbres, on lui demande de gérer la terre, donc ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc tout ce que Dieu a demandé à l'homme de gérer correspond à ce que ces cinq sens peuvent appréhender. Nous allons voir une autre partie qui est différente. Genèse 2, 15 à 17. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà maintenant une autre différence. C'est que Dieu, qui donne à l'homme l'autorité sur les choses physiques pour manger, pour regarder, pour voir, pour gérer les propriétés physiques et chimiques, eh bien, là, il dit à l'homme, il y a des choses spirituelles que je ne t'autorise pas à gérer. Donc, il y a un arbre auquel tu ne dois pas toucher, parce que cet arbre donne accès à la connaissance du bien et du mal. Et le bien et le mal, on ne peut pas les tenir. Ce ne sont pas des choses qu'on peut appréhender par les cinq sens, mais que par des sens qui sont intérieurs à nous, par l'âme. C'est l'âme qui saisit le bien et le mal. Ce n'est pas le corps. Dieu a donné la domination à l'homme sur tout ce qui était corporel, matériel, physique, mais il ne lui a pas donné l'autorisation de gérer ce qui était invisible en quelque sorte. Et là, il leur donne l'interdiction. Cet arbre vous donnera accès à ce qui est invisible. Et ça, je ne le veux pas. N'allez pas gérer ce qui est invisible. Voilà, dès le départ, Dieu fait la différence entre ce qui est autorisé à l'homme côté gestion et ce qui n'est pas autorisé. Qu'est-ce qui est autorisé? La gestion visible. Mais toujours selon la volonté de Dieu. Sans voler l'autre, sans faire du mal à l'autre. Mais la gestion visible, on dit l'homme, occupe-toi. Si tu sais bien faire le poulet, rôti, vas-y. Si tu sais bien balayer, vas-y. Si tu sais bien tondre l'herbe, vas-y. Ça, c'est ton domaine. Gère l'air. Utilise le parachute, la résistance de l'air pour créer le parachute. Pas de problème. Mais ne touche pas, ne te mêle pas, ne cherche pas à gérer ce qui est invisible. Nous continuons. Ce qui a pour conséquence, après le péché, c'est quoi? C'est que l'homme a gardé un reliquat, un reste de l'autorité que Dieu lui avait donnée pour gérer la terre, les animaux. Et c'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Dès le départ, même quand les hommes étaient barbares, comme on dit, comme il n'y avait pas encore la civilisation comme la nôtre, les hommes savaient déjà emprisonner les animaux, dompter certains animaux, y gérer les animaux, déjà. Dernièrement, on a fait des découvertes d'apiculteurs, des structures liées à l'apiculture, donc l'élevage des abeilles, des structures vieilles de plus de 2000 ans, de 3000 ans plutôt. Donc déjà depuis longtemps, l'homme a su donc gérer les choses telles que Dieu lui a demandé de gérer, mais à faible niveau, pas comme au niveau du départ. Parce qu'au niveau du départ, Adam pouvait rester avec le lion, vivre avec le lion sans que le lion le touche. Il pouvait rester avec les animaux qu'on appelle aujourd'hui sauvages sans qu'ils lui fassent du mal. Donc il y avait une gestion plus grande du visible et du physique, alors qu'aujourd'hui, il y a une certaine gestion, même faible. C'est ce qu'on appelle la science. La science, c'est quoi? La science, c'est c'est des méthodes liées à l'expérience. C'est-à-dire, on observe des phénomènes, on décrit, on constate une loi qui régit ces phénomènes. C'est-à-dire, quand je lâche un corps dans le vide, il tombe. Tout corps qu'on lâche dans le vide, il tombe. Finalement, on en déduit quoi? Qu'il y a une loi qui fait que lorsqu'un corps est lâché dans le vide, il tombe. Cette loi, on va l'appeler la pesanteur. La science n'a pas créé ça, mais la science découvre ça. Donc, ce qui est visible. Donc, c'est ce qu'on appelle la science. Donc, la science est basée sur des observations. Et à partir des observations, on en déduit des lois. Et c'est pourquoi, on parle d'expérience. On vit quelque chose. Et puis, parfois, on peut soi-même créer les expériences. Ça s'appelle l'expérimentation. Donc, on crée des expériences. À partir des expériences, on peut maintenant constater des lois. Et la science se base sur un principe qu'on appelle le déterminisme scientifique. Ça veut dire quoi? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. parce qu'aujourd'hui, je lâche un corps dans le vide, il tombe. Comment je puis être sûr qu'un autre corps tombera? C'est une foi, quelque part. On croit que la même cause produira toujours le même effet. Donc si j'amène le feu près, par exemple, d'un papier, le papier brûlera. Comment je le crois? Je le crois parce que ça s'est fait une ou deux fois, cinq fois, six fois. J'en déduis que ça se fera la septième fois. Donc c'est ce qu'on appelle le déterminisme scientifique. Donc quand certaines conditions se réunissent et qu'elles ont produit une chose, quand on réunit les mêmes conditions, on produira encore la même chose. C'est ça, c'est une sorte de foi où on croit que ce qui a été produit avant, dans les mêmes conditions, va se reproduire. Ça, c'est le domaine que Dieu a donné à l'homme. Il a dit, ça, c'est le visible. Observe, utilise les propriétés chimiques, biologiques. Voilà, donc on sait que les œufs, quand on les met dans l'eau chaude, eh bien, ça finit par devenir dur et puis on mange. Donc quand on remet encore d'autres œufs, on croit que ça va se faire encore. C'est ça le déterminisme scientifique. Donc on a une sorte de foi que ça va se répéter. Et c'est ainsi que la science est basée sur ce principe-là. Et Dieu nous a autorisés à gérer cette partie-là. Même si c'est resté petit, parce qu'autrefois Adam avait beaucoup plus de puissance que nous dans la science. Mais aujourd'hui, c'est resté petit. Mais ce petit-là, Dieu nous le laisse pour qu'on continue à gérer tant bien que mal la terre. Mais Dieu ne nous autorise pas à aller dans le monde invisible. Donc, à gérer des choses invisibles. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, la magie, les sciences occultes. Donc, il y a une différence entre la science expérimentale, physique, chimie, mathématiques, qui sont des choses liées à des lois qu'on observe, et les sciences occultes, ésotériques, magiques, de sorcellerie, parce que ces sciences-là s'occupent de gérer l'invisible, alors que la première science s'occupe de gérer le visible. C'est ça la grande différence. Donc Dieu a interdit la science invisible, il a autorisé la science visible. On le voit donc dans Genèse, à partir de ces deux commandements. D'ailleurs, nous allons voir dans Genèse 3 ce qui s'est passé au verset 1er. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous comprenons. Quand il dit, vos yeux s'ouvriront, il s'agit de quels yeux? Il ne s'agit pas des yeux physiques parce que leurs yeux étaient ouverts. Il dit, le jour où vous mangerez de ça, vos yeux s'ouvriront. Il s'agit d'autres yeux. Il s'agit d'un autre domaine. Il dit, vous aurez des yeux ouverts sur un autre domaine. Et c'est ça le piège de Satan. Il va te pousser, toi et moi, à vouloir gérer l'autre domaine que Dieu a fermé pour nous. C'est ça la sorcellerie, c'est ça la magie. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer, vendredi, samedi, dimanche, nous avons un séminaire sur la sorcellerie. Donc, invitez les sorciers qui veulent venir pour leur conversion. Dieu va les convertir, Dieu va les toucher. Donc, si tu es là, sache que Dieu t'aime, il t'invite vendredi, samedi, dimanche pour ta conversion. Voilà. Donc, accéder à un domaine fermé par Dieu. Fermé par Dieu. Et Satan encourage. Vas-y, mange. Tu verras. Tu pourras voler comme un oiseau. Non, non, non. Ça, j'ai laissé ça aux oiseaux. De toute façon, on a fabriqué des avions, ça me suffit. Donc, tu réponds comme ça au diable. Il va te dire, vas-y. Tu pourras voir l'avenir. Tu dis, non, 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 non. On a déjà la météo, ça nous suffit. Donc, à partir des observations de nuages, de l'atmosphère, on peut déduire s'il y aura la pluie demain. À partir des calculs mathématiques, cela nous suffit. On ne cherche pas à connaître l'avenir. Voilà ce qu'il faut répondre. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, mais oui, mais pasteur, mais où est le lien avec l'homéopathie? Voilà. Où est le lien avec l'homéopathie? Bien-aimé, comme j'ai dit, il y a la vraie science, c'est-à-dire la vraie médecine. Je ne dis pas que la vraie médecine, c'est la solution pour l'humanité. Je ne dis pas que la vraie médecine remplace Dieu. Non, mais c'est quand même la science. Donc, c'est basé sur ces principes que je viens d'expliquer tout à l'heure, les déterminismes scientifiques. Donc, il y a des produits. Si certains produits m'ont fait du bien à un moment, eh bien, si on refait ces produits, ils me feront toujours du bien quand j'aurai la même maladie. Ah, donc, la vraie médecine qu'on appelle allopathique est basée sur cela. Donc, elle utilise des produits naturels qu'elle synthétise, c'est-à-dire auxquels elle donne une forme appropriée pour qu'elle soit prise, pour qu'elle soit produite en plus grande quantité, et enfin de soigner le maximum de personnes. Et maintenant, quand vous prenez les comprimés, par exemple, Efferalgan, vous prenez ça en Afrique, ça vous fera le même effet. Les maux de tête finiront. Vous prenez l'Efferalgan au pôle Nord, les maux de tête finiront. Vous prenez l'Efferalgan en Australie, ça marchera. Mais déjà, je veux vous dire que c'est différent avec l'homéopathie. L'homéopathie, on dit que les mêmes médicaments ne produiront pas les mêmes effets chez tout le monde. Alors là, déjà, il y a un problème. Donc, je vais recommencer l'explication. L'homéopathie a commencé avec qui? L'homéopathie a commencé avec Hahnemann, un certain Allemand déçu de la médecine normale de son époque. C'est normal. Ils étaient au XVIIIe siècle. La médecine n'était pas encore évoluée. On ne faisait que saigner les gens quand ils étaient malades ou bien, je ne sais pas, taper d'une certaine manière. Bref, il était insatisfait de la médecine de l'époque. Alors, un jour, il a essayé les écorces de quinquina, les écorces qui guérissent de la malaria, du paludisme. Lui, il a, alors qu'il n'avait pas le paludisme, il les a bu. Il a bu des décoctions de ces écorces. Et la fièvre qu'ont les gens qui ont le paludisme, lui, il a eu alors qu'il n'avait pas la malaria, le paludisme. Donc, il en a conclu puisque ces écorces-là lui ont créé la fièvre, alors que ces écorces-là guérissent la malaria, donc ça veut dire que lorsqu'on prend un produit qui crée une sorte de maladie, donc des symptômes, c'est pour que tout le monde comprenne, c'est dit un produit qui crée une sorte d'apparence de maladie peut guérir la maladie elle-même. Par exemple, donc si je prends un produit qui me crée des maux de ventre, donc ça veut dire que ce produit-là, le jour où j'aurai des maux de ventre, il peut me guérir. Donc il appelait ça le premier principe, le principe de similitude, c'est-à-dire les semblables guérissent les semblables. Donc si un produit te crée les maux de ventre, alors le même produit peut te guérir quand tu as des maux de ventre. Où tu as vu ça? Ça veut dire que le mal guérit le mal. C'est déjà contraire à la Bible qui dit que soyez vainqueurs du mal par le bien. La Bible ne dit pas soyez vainqueurs du mal par le mal. Ça veut dire maintenant, pour qu'on te calme la douleur, on va te donner un grand coup, puisque le coup de poing crée la douleur. Quand tu souffres, allez, coup, comme ça, on peut guérir ta douleur. C'est faux. C'est faux. Et donc, ça, c'est le premier principe de l'homéopathie. Donner aux gens des produits qui, en temps normal, alors qu'ils ne sont pas malades, leur créent une maladie, des symptômes de maladie. Et quand maintenant ils seront vraiment malades, quand on leur donne les mêmes produits, ça les guérira. Hahnemann a essayé de faire ça. Mais il s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Ça a marché peut-être pour l'écorce d'un quinquina, mais ça n'a pas marché pour le reste des produits. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Alors, il faut diminuer la concentration des produits pour que ça ne fasse pas un effet négatif. Alors, le produit qu'on doit prendre doit être diminué, dilué. Mais la dilution qu'il a proposée est une dilution qui fait que à la fin, il n'y a plus de produits. Mais maintenant, qu'est-ce qui va te guérir puisque ce que tu prends, dedans, il n'y a pas de produit? Donc, quand vous entendez produit homéopathique, ça veut dire que c'est un produit dilué. Un petit exemple, c'est comme si vous prenez un morceau de sucre, vous mettez dans une citerne qui a la taille de la France. Donc, vous prenez une citerne, je vais prendre un autre terme, vous prenez un lac qui a la taille de la France, vous mettez un morceau de sucre. Est-ce qu'il y aura, quand vous allez boire cette eau-là, vous allez sentir le sucre? Ben non. Mais c'est ça l'homéopathie. Donc, on prend le produit qui nous intéresse, on dilue. Maintenant, Il y a un processus, ils diluent, après ils font, ça s'appelle la dynamisation. Ils secouent sans froid. Ils disent qu'en secouant, on conserve des propriétés du produit. Et quand tu secoues, tu changes de récipient rapidement pour que les parois du premier récipient ne gardent pas l'énergie de guérison. Alors, vous vous imaginez, dans ce cas, on n'aura plus besoin de sucre. Hein. Donc, un morceau de sucre peut nous satisfaire, nous tous. Donc, tu prends un morceau de sucre, on dynamise. Donc, à la fin, tout un lac sera sucré par un morceau de sucre. C'est bien sûr que c'est faux. C'est faux. Donc, c'est ça les produits homéopathiques. Tu es en train de prendre quelque chose qui n'a rien dedans, en quelque sorte. Donc, on a dilué. Et bien aimé, sachez que la comparaison que je vous fais, elle est plus grande que la vraie réalité. La réalité, les gens ont calculé, c'est que si on avait un récipient de la taille de la distance soleil et terre, vous voyez la distance entre le soleil et la terre, si on avait un récipient, c'est comme ça qu'eux, ils diluent une goutte de produit. Donc c'est vraiment une diminution totale, il n'y a plus rien. Mais ils disent qu'avec la dynamisation, en secouant, on conserve les qualités du produit. Donc en ingurgitant ces produits régulièrement, tu es en train de t'immuniser par rapport à certaines maladies. Tu es en train de combattre des maladies. Et je vais vous parler d'un autre principe. Déjà, ce principe-là de dilution montre qu'il n'y a plus rien dans ces comprimés homéopathiques. Il n'y a plus rien. Donc, tu es en train de prendre autre chose. Deuxième, un autre principe, c'est le principe de corrélation des terrains. C'est-à-dire que les médicaments marchent en fonction des gens. Donc, si toi, tu as des maux de tête, on te donne le produit A, moi j'ai les maux de tête, on ne me donnera pas forcément le produit A, on me donnera peut-être le produit B. Tout dépend du terrain que je suis. Comment savoir mon terrain? On va faire une étude de mon passé, une étude des maladies que j'ai eues pendant que j'étais enfant, une étude de mon expérience physiologique. On fait une étude de ça et puis on me qualifie terrain tel, terrain. Donc finalement, on ne sait plus quel médicament donner à qui. Mais ça ne les empêche pas de vendre les médicaments à la pharmacie, de dire que ça va guérir tel mot pour tout le monde. Hein, alors que dans leur principe, ils disent que ça dépend des terrains. Donc, c'est déjà, ils se contredisent, mais vous allez voir que tout ça, c'est l'argent. Quoi. Donc, finalement, quand il s'agit de l'argent, donc il n'y a pas de scrupules. Et voilà les quatre principes de l'homéopathie. Similitude, dilution, dynamisation et puis corrélation. Et ça ne tient pas debout. Parce que dans ces comprimés, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. Et on appelle ça en médecine, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui te dire, tu peux dire, j'ai mal à la tête. Tu viens, je te donne je dis, prends, c'est de l'aspirine. En réalité, ce n'est pas de l'aspirine, c'est un bonbon. Toi, tu avales et puis tu n'as plus mal à la tête. Ça s'appelle effet placebo. C'est-à-dire, puisque tu as cru prendre un médicament, le fait de croire que tu prends un médicament, ça t'a presque déjà guéri. Et combien de fois, quand on prend rendez-vous avec le médecin, on est déjà guéri à l'avance? Tu souffres, mais dès que tu cherches à prendre le rendez-vous, il refuse. Le premier médecin n'a pas de place. Le deuxième médecin n'a pas de place. Et quand tu as un troisième médecin, un extrémiste, rien que le fait de savoir, bon, le soir, je vais voir le médecin, tu es déjà guéri à l'avance. Tu arrives chez le médecin, il vérifie, mais il n'y a rien. Mais bon, donc c'est ce qu'on appelle en quelque sorte un effet psychique qui agit quand même sur le corps. Ça s'appelle en médecine l'effet placebo. Donc on te donne un produit qui n'a pas de médicament, mais qui, on te fait croire que par exemple c'est le médicament et tu es guéri. C'est possible. Tout le monde ne guérit pas non plus hein, avec les médicaments à cause de l'effet placebo. C'est pas tout le monde, mais ça arrive. Ça arrive. Et donc finalement, quand on voit bien l'homéopathie, c'est quoi? C'est l'effet placebo déguisé, mais je ne crois pas. En réalité, c'est vraiment des puissances spirituelles qui sont en jeu. Parce que Hahnemann, c'était un occultiste. C'est quelqu'un qui recevait des révélations spirites. C'est-à-dire, il entrait en transe et recevait des révélations par des démons. Donc, ce qu'il fait là, et quand il dit que quand on a dilué le produit, il dit qu'il n'y a plus de substance du produit. Alors, ce qui guérit, c'est quoi? C'est une puissance spirituelle. C'est pourquoi il appelle ça la dynamisation. On crée une puissance, une énergie dynamique qui va te guérir. Donc en réalité, ce qui te guérit, c'est une puissance invisible. Ce n'est pas une chose réelle que tu peux toucher avec tes yeux, que tu peux observer avec le microscope, mais c'est quelque chose qui est invisible. Alors que la vraie médecine, la médecine allopathique, est basée sur l'observation. C'est pourquoi plus les moyens d'observation grandissent, plus la médecine s'améliore. Plus on a des microscopes qui peuvent regarder loin dans le petit, plus on a des médicaments qui sont améliorés, plus on a des théories médicales qui sont améliorées, puisqu'on peut bien observer. Donc c'est une médecine basée sur l'observation, basée sur la réalité, alors que l'homéopathie est basée sur une foi en une dynamisation, en une puissance qui serait cachée dans les molécules. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc c'est ça la base de l'homéopathie. Et quand on voit bien, on se rend compte que, en réalité, c'est une secte avec un gourou, Hahnemann, qui est déjà mort, et avec ses disciples, les homéopathes, qui sont en train de s'enrichir sur le dos des gens, puisqu'il n'y a pas de fondement scientifique. Il n'y a pas de fondement. Jusque-là, je n'ai pas même touché le côté spirituel, rien que le côté scientifique, il n'y a pas de fondement. Lisez les avis des médecins, des véritables médecins. Allez sur Internet, cherchez les avis des véritables médecins, des chefs de service. Ils vont vous dire que l'homéopathie ne fait pas de médicaments parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas la molécule active, donc il n'y a pas la substance active dans les produits homéopathiques. Il n'y a rien. Donc, au fait, les gens prennent ça, ils sont guéris par une puissance dynamique. C'est quoi cette puissance dynamique? C'est une puissance spirituelle qui vient des démons. C'est ça la réalité. Et donc, toi qui es dans l'homéopathie, fais attention. Parce que toutes ces choses-là ont une conséquence. Les gens qui le font deviennent petit à petit esclaves du diable, sans s'en rendre compte. Vous savez, il y a un pasteur qui avait, dans les années 30, ça c'est une vieille amie qui m'a raconté ça. Dans les années 30, il y avait un pasteur qui était loin de Dieu puissamment. Et lorsqu'il parlait, les gens se convertissaient. Et l'église ne faisait que se remplir. Mais malheureusement, ce pasteur a laissé sa femme consulter un radiesthésiste. Ça, c'est encore autre chose. C'est les gens qui utilisent le pendule ou une baguette pour faire des diagnostics, pour chercher les sources d'eau, pour il prend ta photo, il prend la baguette pour savoir si tu es attaqué par des forces négatives. Ça, c'est la radiesthésie. Alors, sa femme consultait un radiesthésiste. Les membres de l'église ont dit au pasteur, « Pasteur, ce n'est pas bon !» Le pasteur a voulu faire le pasteur, eh bien, il a refusé d'obliger sa femme à arrêter. Mais bien aimé, les douleurs de sa femme ont continué. Elle est morte horriblement. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'église s'est vidée. S'est vidée. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Plus grave, quand ce pasteur est mort, son agonie était difficile. L'agonie, c'est un temps de souffrance avant la mort. Son agonie était longue. Il a souffert pendant longtemps à lutter avant de mourir. C'est ça le sort de tous ceux qui font les sciences occultes, de tous ceux qui font, qui se laissent avoir par les choses comme homéopathie, radiesthésie. Toutes ces choses amènent, lorsque tu es près de la mort, à subir des agonies très 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 longues. Et mis à part ça, dans ta vie, il y aura aussi des conséquences, des blocages que tu ne comprendras pas. Mais parce que tu as fait des contrats indirects avec des puissances spirituelles, en allant dans l'homéopathie, alors qu'en réalité, il n'y a aucun médicament dedans. Alors qu'est-ce qui te guérit s'il n'y a aucun médicament? C'est que s'il y a des puissances spirituelles avec qui tu négocies pour être guéri. Mais tu ne le sais pas. On te fait croire que c'est presque un médicament alors qu'il n'y en a pas. Je vous répète, il y a le principe de dilution. La dilution, c'est quoi? C'est que, dilution à haut niveau, c'est que tu prends le médicament, tu le dilues. Donc, je vous donne l'exemple, c'est comme si vous prenez un morceau de sucre, vous mettez dans un lac. Après, il n'y a plus de sucre dans le lac. Le lac sera le même, puisque le sucre ne peut pas se répartir dans tout le lac, un petit morceau de sucre. C'est comme ça que sont fabriqués les médicaments qu'on appelle homéopathiques. Dedans, il n'y a plus de substance active, parce que la dilution est trop forte. C'est ça qui se passe. Donc du moment qu'il n'y a pas de médicaments, qu'est-ce qui te guérit? Bien sûr, c'est les puissances démoniaques. Maintenant, il ne faut pas confondre l'homéopathie et la phytothérapie, qui est la guérison par les plantes. Donc ça, il n'y a pas de mal à cela. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Les gens ont tendance à croire que l'homéopathie, c'est la guérison par les plantes. Non, non, la guérison par les plantes, ça, c'est autre chose. Quand tu as la fièvre, il y a certaines plantes que tu vas faire des tisanes de ces plantes, tu vas boire, ça va te calmer la fièvre. Ça, ce n'est pas l'homéopathie. Ça n'a rien à voir. L'homéopathie respecte certaines règles strictes. Donc, donc il ne faut pas confondre les choses. Bref, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais oui, mais pasteur, ça marche. Mais oui, mais quand quelqu'un a gagné au loto, si tu lui dis ne joue pas au loto, il va dire quoi? Ça marche. Puisque lui, il a gagné. Mais mathématiquement, bien aimé, la loterie est faite de sorte qu'il y ait 95% de qui? Des perdants et 5% des gagnants. C'est comme ça que c'est fait. Donc quand quelqu'un dit ça marche, mais ça a marché pour lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça a marché pour un chien. Moi, je dis, mais quand on leur dit, mais non, c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que quand tu me donnes un médicament, même s'il n'y a rien dedans, je peux guérir parce que je pense que c'est le médicament. Mais il y en a qui ont dit, mais oui, mais quand on a donné un chien, le chien, lui, ne sait pas comment il a été guéri. Moi, je peux vous dire que j'avais un enfant malade, un de mes enfants était malade, lui ne savait pas qu'on allait faire des examens pour connaître sa maladie. Donc, juste le fait qu'on soit parti faire les examens, il n'était plus malade. Ça fait des jours, donc ils n'ont rien trouvé et il n'est pas malade. Donc, il avait tout le temps un problème. Il n'a plus ce problème-là. Juste qu'on dise qu'on va aller faire les examens. Donc, ça ne veut pas. Il y a des choses qui sont comme ça qu'on ne peut pas expliquer. On ne va pas, parce qu'on ne peut pas expliquer ça, créer de fausses explications. Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir combler le vide par ce qui est faux. S'il y a un vide qu'on n'arrive pas à combler, laissons le vide. Ne cherchons pas à le combler par ce qui est faux. Et donc, l'homéopathie cherche à combler le vide par ce qui est faux. Et vous avez maintenant leur argument. Un de leurs arguments forts, c'est quoi? Bon, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas non plus de mal. Laissez les gens le prendre. Mais non, ça trompe les gens. Ça peut pousser les gens à refuser les vrais traitements médicaux parce qu'ils se disent qu'ils prennent des faux traitements homéopathiques. Non. Donc, il faut dire la vérité. Ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est tout simplement du charlatanisme. C'est de l'escroquerie. Et pire, c'est des contrats avec des puissances spirituelles, invisibles, sataniques, sans qu'on le sache. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Satan nous touche chacun à des degrés différents. Il y en a à qui il va pousser de prendre des drogues fortes, il y a d'autres que Satan va pousser juste d'être impoli. Donc c'est déjà mauvais, mais c'est à des degrés différents. Donc, et là, l'homéopathie, c'est déjà un degré de contact avec les puissances magiques, mais à un degré différent. Il n'y a pas forcément le consentement, il n'y a pas forcément la connaissance, mais il y a l'impact déjà. Donc c'est une préparation et il faut faire attention. C'est pourquoi je mets dans le même... on n'a pas le temps d'expliquer toutes ces sciences-là, mais c'est des sciences du même genre. Par exemple, quand on parle de la thérapie holistique, c'est quoi la thérapie holistique? C'est-à-dire que toi, tu as mal à la jambe, on te fait un examen général et on dit que bon, si tu as mal à la jambe, c'est parce que tu t'es fâché hier. Calme-toi, bien-aimé. Moi, je me suis cogné, vous me dites que je me suis fâché. Donc, même si je cesse de me fâcher, donc ma jambe va se redresser. Mais attends. Et les gens vont là-bas, on leur fait des choses comme ça. Et le monsieur dit, tu as trop d'émotivité. C'est pourquoi ta tête fait mal. Donc, on va essayer de masser la tête et peut-être ta cuisse ira mieux. Mais non, c'est de l'escroquerie tout ça. Toutes ces sciences holistiques, on veut, d'une manière globale, on veut gérer. Vous savez, même dans l'homéopathie, on le dit. Donc, les produits homéopathiques gèrent la haine, la méchanceté, la jalousie. Mais comment un médicament peut gérer des choses liées à l'âme? Ce n'est pas possible. Ce qu'ils appellent méchanceté, jalousie, c'est des péchés. La Bible dit qu'il faut se repentir, demander pardon et recevoir la vie de Jésus-Christ pour en être guéri. Ce n'est pas en prenant des médicaments qu'on peut guérir de la jalousie, de la haine, Bien-aimés, soyons sérieux. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les gens avec l'acupuncture. On vient te mettre des points. On dit il y a le yang, l'énergie positive, le ying, l'énergie négative. On te fait des piqûres. Il y a un médecin qui a dit attention, même si ces piqûres-là peuvent calmer, ça n'enlève pas les tumeurs cancéreuses. Viens qu'on te fasse l'opération vite, monsieur ou madame. Et maintenant, on fait même l'acupuncture des chiens. Mais qu'ils essaient avec les lions, ils vont voir. Hein. Bien-aimés. Donc, ce sont des choses fausses. On dit c'est l'énergie que tu canalises. Quelle énergie que tu n'as pas vue? Quelle énergie? Nous sommes tous mortels. Nous mourrons un jour. Tout ce que vous allez entendre, énergie. Médecine globale, c'est-à-dire tu as mal à l'œil, on va chercher, savoir comment ta vie était la semaine passée, pour voir où tu t'es fâché, peut-être ça va guérir. Toutes ces médecines-là, c'est de l'escroquerie, c'est de la magie. En réalité, c'est de la magie camouflée. C'est la magie camouflée. C'est comme dans certains pays, il y a des guérisseurs. Tu vas voir le guérisseur, tu as mal à la jambe, il prend un coq, il lui casse la jambe, et toi, ta jambe s'est rétablie. Tu as dit quoi? Donc, c'est ton coq, c'est le coq qui t'a guéri. Mais non, c'est la magie. C'est la magie. Tu es en proie en relation avec des forces spirituelles démoniaques. Et c'est très, très dangereux. Et je vais citer encore le yoga. Où on te dit, à force de concentration, en prenant certaines positions, tu peux te relaxer, te guérir. Non, tout ça c'est la fausseté. Aie une bonne vie, aie un bon train de vie, tu seras en paix, tu seras tranquille. Tu n'as pas besoin du yoga. Vous vous imaginez qu'on fait accoucher les Européens avec le yoga maintenant. Donc pendant plus de 3000 ans, les Européens n'ont accouché sans yoga. N'y a-t-il pas des humains? Donc c'est le yoga qui va maintenant faire accoucher les gens mieux? Et pendant toutes ces années-là, dans les années 1600, 1200, les années 1800, où était le yoga pour faire accoucher les Européennes? Mais c'est pourquoi j'ai dit que le péché rend les gens bêtes. Donc, ils ne réfléchissent même pas. Mais comment ma grand-mère a accouché? Mais ils se font avoir. Ils se font avoir. Et on oblige presque les femmes enceintes à faire des exercices de relaxation liés au yoga. Il faut refuser. Tu dis à la sage femme, ma grand-mère ne connaissait pas le yoga. Mais maintenant, je suis là. Grâce à elle. C'est ça la réalité. Et le yoga est basé sur le Kundalini. Kundalini, c'est une puissance magique liée à un serpent. Et quand tu fais ces choses-là, ce serpent-là est en train d'évoluer dans ton corps. Vous imaginez un serpent dans ton corps. Déjà, le fait de savoir que tu as des vers, c'est déjà ça dérange. Mais maintenant, tu as un serpent. Ça, c'est le yoga qui amène ces choses-là. Mais c'est des puissances magiques. Il ne faut pas suivre tout ça. Relaxation, tu prends des positions bizarres. Non. Avec un bon jus d'orange, un bon fauteuil, je me relaxe. Alléluia. Et une bonne prière, suivie d'un bon verset biblique. On n'a pas besoin du yoga pour se relaxer. C'est du mensonge, c'est des contacts avec des puissances magiques. C'est la sorcellerie camouflée. Et les gens, aujourd'hui, ils utilisent le terme bien-être. Le bien-être, on vend des produits bien-être, des produits de cheveux, estampillés bien-être. Ceci, bien-être, bien-aimé, on n'a pas besoin de tout ça. Si tu as un problème de nourriture, va voir un médecin diététicien, il va te donner des conseils. Et de toute façon, nous tous, nous connaissons ces conseils-là. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop manger la nuit. On connaît ça, on n'a pas besoin de vendre des produits, de l'acheter des produits bien-être, de comprimés bien-être, de tout bien-être. Petit à petit, on va t'amener dans le bien-être jusqu'à yoga. Bien-être jusqu'à radiesthésie. Bien-être, les mêmes sociétés qui vendent les produits bien-être, c'est les mêmes sociétés qui préconisent le yoga, qui préconisent la méditation transcendantale, qui préconisent la radiesthésie. C'est les mêmes sociétés. Donc, ils commencent par te piéger par le corps en disant pour que tu sois, tu aies du tonus. Voilà les ginseng, biloba, bicoloba, j'ai oublié la fin. Le ginseng, tout ça. Au début, tu es là, aloe vera, ginseng. Après, tu finis par des positions bizarres. Je ne peux même pas faire ces positions-là, bien-aimé. C'est les mêmes sociétés. C'est les mêmes sociétés, il faut faire attention. Il faut manger sainement, et nous connaissons ça. Il suffit d'acheter les Kellogg's, tu vas voir, il y a des conseils sur la boîte de Kellogg's. Comment tu dois manger le matin, jus d'orange, quelques céréales, et puis tu es tranquille. Donc tu n'as pas besoin de suivre tous ces sites de bien-être pour diminuer le ventre, bien-être pour diminuer le nez, bien-être pour... Il ne faut pas suivre tout ça, bien-aimé. Un jour on mourra, c'est la science de l'amour du corps. Mais bien-aimé, un jour on mourra. La Bible dit vaut mieux entrer estropié au paradis avec une seule jambe. Dès que tu franchis seulement la porte du paradis, la jambe revient. Tu entres au paradis avec un gros ventre. Dès que tu franchis seulement, il devient plat. Tu es tranquille. Mais ici, on va te mentir. Vas-y. Le ventre plat, voilà tel médicament, tel produit. Les gros muscles, voilà. Et le dopage, les gens meurent. Des stéroïdes, toutes ces choses-là. Eh bien, les gens meurent de cela. Aie une vie saine. Et nous tous, nous savons comment avoir une vie saine. On n'a pas besoin des conseils de charlatans. Les médecins normaux savent bien conseiller. Et il y a des médecins qu'on appelle diététiciens, ils ont étudié ça aussi. Donc on peut les voir, ils vont nous donner des bons conseils. Nous n'avons pas besoin de ces charlatans-là qui ne sont contrôlés par personne. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que les médecins, c'est la solution. Je suis en train de dire qu'au moins il y a un certain contrôle, au moins il y a une certaine logique scientifique, au moins il y a une certaine fiabilité. Mais bien sûr que les médecins aussi peuvent être corrompus pour vendre de mauvaises choses. Mais déjà, il y a un minimum de contrôle. On les préfère à tous ces charlatans-là qui vont mentir. Et puis il y a une logique biblique, la logique scientifique que Dieu nous autorise quand nous voyons ce qu'il a dit à Adam, alors que de l'autre côté, nous sommes dans la logique de l'invisible que Dieu interdit. Les énergies, toutes ces choses, Dieu interdit ça. Dieu nous demande de gérer ce qu'on peut saisir par nos sens, par l'observation, par l'expérimentation, et non pas ce qu'on peut supposer par des concentrations, par des formules magiques. Donc faire attention à tout ce qui est bien-être, qui nous amène au culte du corps. On commence à aimer le corps plus que Dieu, ce n'est pas normal. Or, un jour on mourra, et je ne dis pas qu'on néglige le corps, mais il y a des conseils simples qu'on connaît depuis longtemps, le sport. On connaît ces conseils. Une hygiène alimentaire bonne. On connaît beaucoup déjà de conseils. Appliquons le peu qu'on connaît. D'abord, appliquons cela. Et ensuite, si ça ne nous suffit pas, allons voir un médecin, diététicien, qui va nous conseiller. Et parce que lui va nous conseiller, il ne va pas nous vendre des produits. Il va nous donner une ordonnance, il va nous conseiller. Ce n'est pas chez lui qu'on va acheter, hein. Voilà, donc il n'a pas intérêt à vouloir nous lancer sur une voie parce qu'il sait que l'argent reviendra à lui. Alors que ces gens-là, ils vous lancent sur une voie, ils vous rendent dépendant de leurs produits à vie. Ce n'est pas normal. Donc ce sont des pièges qui sont dans l'église de Dieu aujourd'hui. Dernièrement, j'ai vu un pasteur américain en train de vendre un livre sur le wellness, donc le bien-être. Moi, j'ai dit voilà, les escrocs, les loups sont dans la bergerie. Donc comment toi, un pasteur, tu vends un livre sur le bien-être? Or, conseille les gens de suivre la façon que vivait Jésus-Christ. Une façon simple, une façon humble. Tu commences à dire aux gens, voilà le livre sur le bien-être. Pour conseiller aux gens comment sauter, manger, tout ça. Non, bien-aimé, c'est du commerce. Nous, les pasteurs, nous devons demander aux gens de revenir à la Bible, à Jésus. Quand tu reviens à Jésus, tu ne feras pas des excès de table. Quand tu reviens à Jésus, quand il y a une nourriture, tu partageras à tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise. Tu ne chercheras pas à prendre les gros morceaux. Quand tu reviens à Jésus, eh bien, tu seras droit. Quand tu reviens à Jésus, bien-aimé, vous savez, le Saint-Esprit parle. Moi, il fut un temps, je ne buvais pas de l'eau. C'était que des jus. de boissons sucrées. Mais le Saint-Esprit te convainc. Et quand tu ne suis pas le Saint-Esprit, il te donne le dégoût. Tu n'arrives même plus à boire ces boissons que tu aimais beaucoup parce que le Saint-Esprit sait que ça t'amène à ta perte physique. Le Saint-Esprit s'occupe de notre santé. Il s'occupe de tout cela. Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de suivre ces méthodes-là. Soyons humbles, revenons au Seigneur. Le Seigneur nous conseillera, soit par lui-même, par son esprit, soit par d'autres, soit par des médecins qualifiés qui nous enverra, et non pas par suivre ces pasteurs qui vendent ces livres sur le wellness, le bien-être. C'est du commerce, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des loups qui sont dans la bergerie, qui portent la peau des brebis. Et moi, bien-aimé, je ne mâche pas mes mots par rapport à ces serviteurs, parce que je n'ai jamais vu Jésus-Christ vendre un livre sur le wellness, je n'ai jamais vu l'apôtre Paul vendre des parchemins sur le bien-être. Il parlait de Dieu et il savait que Dieu allait s'occuper de nous entièrement. C'est clair. 3 Jean 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc 3 Jean 2 nous montre que si ton âme prospère, qu'est-ce qui prospérera aussi? Ta santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, tu auras une alimentation équilibrée parce que le Saint-Esprit te parlera. Si ton âme prospère, tu auras la prospérité financière. On n'a pas besoin de livres spéciaux pour nous enseigner comment gagner l'argent. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez l'argent. Cherchez, obéissez à la Bible, vous serez en bonne santé. C'est clair. Tout ça, c'est des gens qui veulent piquer les autres par les virus de l'orgueil, de l'envie, de l'argent. Et ils font ces livres-là pour se remplir les poches. Et bien aimé, il y a certaines personnes aussi qui peuvent dire, mais oui, mais quand nous prions pour les gens, c'est aussi des guérisons non scientifiques et donc c'est spirituel. La différence, c'est que nous faisons que imposer les mains ou parler. Ce n'est pas nous qui agissons. On ne sait même pas comment Dieu fait. Nous ne faisons que compter sur lui. Donc on prie pour la personne et on compte. Et on ne sait pas comment Dieu va faire. On sait seulement qu'il va faire. C'est ce que Dieu nous demande, d'avoir foi en lui. Donc quand on prie pour les gens, on ne glisse pas dans la magie, on reste dans la Bible et on ne sait toujours pas comment Dieu s'y prend. Mais nous, on prie, c'est tout. Donc on reste dans le visible. Je te vois, je prie pour toi et c'est Dieu qui peut aller dans l'invisible pour faire ce qu'il veut. Il ne nous autorise pas à toucher aux choses invisibles. Donc c'est cela la prédication d'aujourd'hui. Puisque cette science s'est répandue, ces sciences-là se répandent et touchent même l'Église jusqu'à ce que les pasteurs commencent à vendre des livres sur le bien-être, ce n'est pas normal. Réveillons-nous, c'est nous pousser à entrer en contact avec des puissances spirituelles dangereuses. Au début, ça va commencer par la nourriture. Tu te dis, mais oui, mais c'est juste des conseils par rapport à la nourriture. Après, ça va être des pilules, des gélules qui sont censées faire ce que la nourriture fait. Alors, pour t'éviter le temps de préparer cette nourriture, tu prends les gélules. Après les gélules, ça sera des exercices physiques spéciaux. Et après, ça sera des piqûres spéciales. Et puis, petit à petit, tu vas jusque dans l'homéopathie et jusque dans les sciences du bien-être qui sont des contacts avec des puissances magiques. Et tout ça, bien sûr, démarré par un pasteur. Voilà là le piège. Il ne faut pas écouter de tels pasteurs. Il faut écouter ceux qui vous demandent de revenir toujours à Jésus et la Bible. Car la vérité, Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est ça la solution. Et la Bible dit dans Deutéronome 18, il faut que, pour clôturer, nous lisons Deutéronome 18. Au verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. À toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas d'imiter les autres avec toutes ces sciences du bien-être. Nous avons le bien-être à travers ce que Dieu nous a donné comme arbre, comme nourriture à manger, comme intelligence scientifique pour gérer les choses. On n'a pas besoin de glisser dans l'invisible, dans les histoires d'énergie, dans les histoires de yin et yang, tout ça, on n'a pas à glisser. Ce sont des magies camouflées et quand on les fait, ça fait introduire en nous des esprits démoniaques qui deviennent nos maîtres et qui bloquent notre vie d'une manière ou d'une autre. Refusons cela. La Bible dit dans 3 Jean 2, si ton âme prospère, le reste va prospérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus et sa parole. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Donc, si tu as été dans ces sciences-là, nous te demandons de t'humilier devant Dieu. C'est l'heure de la purification, l'heure de la repentance et l'heure de la délivrance aussi. Car lorsqu'on se repent, la délivrance vient en même temps. On commence par se repentir. Si on a eu à fricoter avec ce genre de comprimés, ce genre de pratiques, et après la repentance, nous allons prier pour que le Seigneur libère de toute forme de dépôt démoniaque qui serait encore dans nos vies lié à la pratique de ces sciences floues, occultes, que sont la radiesthésie, l'homéopathie, la thérapie holistique et tout le reste. Prions au nom de Jésus-Christ.